Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, le gai savoir.
Vous voulez absolument me coller l'étiquette des philosophes comme une espèce de rêveur écarté de toutes les difficultés de la vie. Mais, par exemple, je sais tout faire, je n'ai besoin de personne. Je sais faire la cuisine, je me suis suffi à moi-même quand j'étais plus jeune. J'allais moi-même, j'ai bouffé, j'ai pas fait de volaille, etc.
Le gai savoir. L'intellect de la plupart des gens est une lourde, sombre et grinçante machine, difficile à mettre en mouvement. Quand ils veulent travailler avec et bien penser, ils appellent ça prendre la chose au sérieux. Ah, qu'il faut que ce bien penser soit pour eux chose difficile. Dès qu'il en est question, la gracieuse bête humaine perd, semble-t-il, toute bonne humeur. Elle dit qu'elle devient sérieuse. Là où l'on rit, où l'on s'amuse, la pensée ne vaut pas bien cher. Tel est le préjugé de ce grave animal à l'endroit de tout gai savoir. Soit, montrons-lui que c'est un préjugé. Friedrich Nietzsche. Il semble bien que Gaston Bachelard aussi ait contribué à montrer que la nécessité de l'esprit de sérieux, au sens nietzschéen, était un préjugé. Car parlant de Bachelard, philosophe des sciences, il est impossible de ne pas insister sur l'admiration joyeuse qu'il avait pour elle, sur son enthousiasme, sa mobilité, son bonheur de penser, qui ne se sont jamais démentis sa vie durant. En 1961, un an avant la mort de Bachelard, Jean-Claude Bringuier a réalisé pour la télévision un long entretien avec lui. Bachelard s'y livrait avec la simplicité, mais aussi avec la vivacité qui lui était familière. 10 ans plus tard, Jean-Claude Bringuier a réuni dans une salle de classe de l'école communale de Bar-sur-Aube 3 des anciens élèves de Bachelard. Il leur a fait entendre la voix de leur professeur. Je n'avais pas besoin de punir, avait dit Bachelard. Je n'ai jamais puni. Quand un élève ne savait pas sa leçon, je n'avais pas besoin de mettre un zéro.
Parce que une fois qu'un élève est puni, je suis puni. Il sent qu'il a payé sa faute. Voyez-vous, à de ce côté-là, je ne suis pas pour le service punitif. Je ne suis pas.
Vous avez beaucoup d'anciens élèves qui viennent vous voir.
Oui.
Voilà.
C'est bien émouvant.
Oui.
Extraordinaire. J'avais le souvenir d'une voix un peu plus grave, enfin.
Oui. Mais si c'est sa voix qui est.
Oui.
La voix de votre professeur avait 30 ans de moins.
Oui.
Et c'est vous qui m'avez raconté que vous vous souvenez de lui pendant qu'il préparait son agrégation de philosophie,
oui,
à 35 ou 37 ans.
Très bien. Il préparait à ce moment-là l'agrégation à la Bar-sur-Aube. Alors, il était sans bibliothèque à Bar-sur-Aube, et tous les 15 jours, il partait avec 2 énormes valises à Dijon, il empruntait des livres, il les ramenait la quinzaine après. Et il travaillait dans sa maison, paisiblement, tout seul. J'ai le sentiment qu'il a pratiquement préparé l'agrégation seul. Avec une puissance de travail que j'évoque encore ahuri maintenant, il commençait à travailler vers 7h30 du matin. Il trouvait ça normal, il travaillait toute la journée.
En chimie, sur cette grande table, il nous faisait des expériences avec les moyens du bord, mais qui étaient pas mal. Moi, je sais que je trouvais ça très vivant. Et souvent, Bachelard n'était pas un chimiste à proprement parler, puisqu'il avait fait une licence de mathématiques. Il avait fait de la physique en Sorbonne, certainement, mais quelquefois, il ne savait pas bien si on chauffait ou si on ne chauffait pas. Il avait ce mot, chauffe-t-on, chauffe-t-on pas.
Oui,
c'était exact. Alors, il prenait son livre, il cherchait, on chauffe. Bon, alors il allumait le bec Butzel, on ne chauffe pas. Il faisait l'expérience, mais il nous faisait ça très très bien.
Je crois que chacun d'entre nous a des souvenirs différents. Moi, j'ai une année éblouissante de philo. Alors, il y a une chose que je n'oublierai jamais, c'est Platon. Il m'avait fait acheter une très bonne édition du Phédon. Et puis, le mercredi, il me disait, Pierre, vous apporterez votre Phédon. Nous passions rue d'Aube, acheter 2 croissants. Et nous partions à Saint-Germain et on faisait une heure de Fédon, puis nous revenions. Alors évidemment, si j'avais eu un principal un petit peu pointilleux et bêta, on ne voyait pas Bachelard au collège, il était parti avec malgré le Fédon et les croissants. Mais c'était l'enseignement de Bachelard.
Il faut rappeler que vous étiez son seul élève.
J'étais son seul élève avec le chinois. Il y a des classes où nous étions tous les deux. Mais il y aurait eu 4 ou 5 élèves, Bachelard les aurait emmenés de la même façon. C'était magnifique de sa part de nous emmener, de bavarder, de nous donner ses réactions avec cette liberté, cette drôlerie qu'il avait. C'est un homme très bon, très drôle, qui n'avait jamais une phrase qui puisse invoquer du moralisme.
Vous savez, je lui ai peut-être rendu 2 ou 3 visites dans ma vie. Moi, j'étais un petit étudiant.
Michel Foucault.
Lire ses livres, c'était une joie, et une joie dont on sentait qu'elle était celle qu'il avait voulu vous communiquer. Et on se serait senti, et encore quand je le relis, je me sentirais un peu déshonoré si je le lisais tristement. Il y avait une demande de plaisir dans les livres qu'il écrivait, par la manière même qu'il écrivait, et je crois que le lecteur doit être à la hauteur de cette demande et prendre autant de plaisir qu'il en prenait manifestement à les écrire. La beauté de l'écriture de Bachelard n'a rien de l'arrogance de quelqu'un qui se serait pris pour un grand écrivain, même si on fait des écrivains. Non, c'était pas ça. C'était une sorte d'offre qu'il faisait à son lecteur, d'offre de plaisir. Et de ce côté-là, il était d'une générosité que le lecteur devait honorer.
Est-ce qu'il y a une définition du philosophe, justement, possible?
Pourquoi ça? J'en ai donné une quand j'enseignais, mais je l'ai perdue. Hein?
Pourquoi voulez-vous qu'une?
C'est un professeur de sagesse, comme on disait jadis.
Je vous dis ça parce que, parmi les idées courantes qui règnent chez les gens qui ne font pas de philosophie, à propos des philosophes, on pense en général que la philosophie, ça sert à rien.
Oui, mais à mon avis, ça sert à penser. Alors, si vous voulez, n'est-ce pas, vous priver de pensée originale, vous pouvez vous passer de philosophie.
Si, c'est un rêve, mais si chacun dans le monde pouvait s'offrir un peu de culture philosophique, est-ce que le monde serait plus heureux?
Oh, vous savez, vous me posez une question massive. Comment voulez-vous que le monde soit heureux? Le monde est dans une vie difficile, il a des tâches et des devoirs et des obligations, il a ses misères, n'est-ce pas? La philosophie ne peut pas tout guérir, n'est-ce pas? Et alors, par conséquent, c'est pas de ce côté-là que je verrai le grand prix de la philosophie. La philosophie, c'est un usage tout à fait interne. Et chacun trouve le philosophe de son choix. Le mot philosophe est maintenant trop multiplié pour que vous espériez avoir une doctrine générale de l'utilité de la philosophie pour chacun. À chacun son philosophe.
Vous vivez dans une pièce qui est tapissée de livres. Qu'est-ce que vous lisez, monsieur Bachelard?
Tout ce qui m'arrive, je lis dans la limite de mes moyens, de mon temps.
Tout ce qu'on vous envoie?
Oui. Enfin, je suis toujours très content de recevoir des livres de poètes, comme je vous le disais un instant.
Plutôt des romans que des poètes?
Plutôt des poètes. Le roman est quelquefois...
Ce qui avait remarquable chez lui, c'est que c'était un homme qui était parfaitement capable de comprendre la haute valeur d'une technique, d'une spécialité, de quelque chose d'extrêmement précis et méticuleux. Et nul n'était plus proche que lui de ce que pouvait être, par exemple, une découverte scientifique dans un petit coin quelconque du savoir, de ce que pouvait être une invention technique ailleurs, etc. Donc il était très près de ces spécificités-là. Et puis, en même temps, c'était quelqu'un qui n'avait pas de spécialité. et qui a pu écrire des livres aussi bien en effet sur la chimie ou l'alchimie, sur la physique ondulatoire, sur la poésie, etc. Et il avait cette idée que je trouvais très belle, que lire, ça veut dire tout lire. À partir du moment où la lecture n'est faite que pour renforcer des valeurs établies, tant que la lecture n'est rien d'autre chose que ce par quoi on vient remplir les cases vides d'un programme qu'on a destiné à l'avance, ce n'est pas une vraie lecture. Pour qu'une lecture soit une vraie lecture, c'est-à-dire pour qu'elle soit une expérience, c'est-à-dire pour qu'elle change le lecteur, faut-il encore qu'elle soit faite au hasard et qu'on découvre dans un livre écrit par un inconnu et trouvé au hasard sur un rayon quelque chose qu'on n'avait absolument pas prévu. Et ça, ce rapport libre, fantaisiste, erratique, aléatoire, avec la lecture, sous forme d'expérience en quelque sorte faite au hasard, mais chaque fois avec voracité, c'était, me semble-t-il, pas simplement ses traits de caractère, mais un mode de rapport qu'il avait avec la culture et avec la pensée.
Quand je suis en train de lire un livre des philosophes, ma foi, je suis à ma lecture. Et alors après, mais ça ne m'empêche pas de vivre comme n'importe qui, comme un bon citoyen, comme un bon père de famille, comme un bon travailleur dans ses fonctions. Oui.
Au fond, c'est un art de vivre, tout ça, monsieur Bachelard.
Oui. C'est beau, art de vivre. Oui, c'est art de vivre. On est obligé d'avoir l'art de vivre, ou un malheureux sot. Il faut être en équilibre avec le temps actuel.
Est-ce que vous avez des goûts, par exemple, en cuisine? Qu'est-ce que vous aimez?
J'aime tout ce qui est bon, bien entendu, mais j'ai vécu 10 ans en Bourgogne, et en ce temps-là, j'étais un véritable gastronome. J'aimais beaucoup bien déjeuner, bien boire, bien sûr.
Quoi en particulier? Maintenant,
tout ce qui est bon, non. Je n'ai pas d'idée fixe, mais quand quelque chose est bon, tout de suite, ça a mon adhésion. Et alors, place Maubert, ici, nous sommes dans un petit village, mais un village merveilleux, n'est-ce
pas? Vous aimez ce quartier?
Oh là, là, là. Le marché de la place Maubert, qui est un des plus grands centres de civilisation de Paris. Comme j'ai dit quelquefois, j'habite la place Maubert, et puis tout autour, il paraît qu'il y a Paris.
Est-ce qu'il y a encore des clochards, place Maubert?
Oui. Il y en a moins, n'est-ce pas? Parce que là, on les pourchasse un petit peu. Bon, oui.
Il y a une histoire pendant la guerre.
Oui. Je ne me souviens pas.
Si un clochard vous saluer d'abord.
D'abord, oui. Il m'a salué naturellement. Je lui ai répondu à son salut. Comme je ne m'arrêtais pas, il me. Souvent je m'arrêtais, mais j'étais pas assez avancé. Il m'a dit merci pour les cours de la Sorbonne.
Aussi novateur qu'ait été Bachelard, aussi plein d'inventions de mille sortes, et aussi différent qu'il ait été de l'universitaire ordinaire. Bon, il y avait chez Bachelard un enracinement dans une forme de philosophie qui a été, je crois, assez particulière à la France. Bon, je vais dire quelque chose qui va sonner immédiatement austère et ennuyeux, mais voilà ce que je veux dire. C'est l'histoire des sciences. Bon, je crois que en France et en Allemagne, la pensée philosophique a été, depuis le début du XIXe siècle, hantée, dominée, en tout cas traversée par la question « qu'est-ce que c'est que l'histoire de la raison ? Est-ce que la raison a une histoire ? Est-ce que la connaissance a une histoire ? Est-ce que la vérité a une histoire ?» Bon, et je crois que cette question, bon, vous la retrouvez dans la grande philosophie allemande, depuis Hegel jusqu'à Nietzsche, jusqu'à Husserl, jusqu'à Heidegger, et puis vous la trouvez en France, sous une forme un peu localisée, un peu particulière, qui est peut-être due à l'influence d'Auguste Comte, enfin peu importe, c'est la question de l'histoire des sciences. Bon, je dirais que ce qui est sans doute le plus remarquable chez Bachelard, c'est qu'il a liait d'une façon extrêmement serrée l'idée d'une rationalité et l'idée d'une création, d'une créativité. La rationalité et la créativité, la rationalité et la nouveauté, c'était pour lui une seule et même chose. Et alors, je crois qu'il y a là quelque chose qui est très intéressant, dans la mesure où, en gros, si vous voulez, pour parler très schématiquement, on met plutôt la raison, la rationalité, etc., du côté et de l'universel et du permanent, et en même temps de la contrainte. La raison est ce à quoi on ne peut pas échapper, dans la mesure même où ça serait une forme universelle. Et alors, pour lui, pour Bachelard, la raison, c'était une activité que je dirais joyeuse, drôle, inventive, multiple, polymorphe. C'était un jaillissement perpétuel. Et je pense que sous cette forme apparemment facile et joyeuse de la raison, il posait un principe philosophique fondamental, c'est que l'exercice de la raison et la pratique de la liberté ne peuvent pas être dissociés.
Voilà. Vous disiez tout à l'heure qu'au fond, il avait surtout été connu en France. Est-ce qu'on peut dire de Bachelard que c'est un philosophe très typiquement français, hein, qui restait très, très fermé, dont l'œuvre n'a pas été connue ailleurs?
Écoutez, là, je ne saurais pas très bien dire. Il me semble en effet que son œuvre n'a pas été très bien connue parce que... Pourquoi ? Sans doute, c'était assez difficile de techniquement de traduire les œuvres de Bachelard, mais c'est pas simplement ça. Je crois que la tradition de l'histoire des sciences ou de la philosophie des sciences dans beaucoup de pays, et je dirais en particulier dans la tradition anglo-saxonne, jusqu'à ces dernières années où les choses ont commencé à changer, disons que c'était une tradition assez austère, assez ennuyeuse. Ils ont fait de l'excellent travail, mais il est évident qu'ils avaient un côté pincé et austère, gris.
La philosophie des sciences aux États-Unis était très influencée par les philosophies analytiques allemandes et anglaises, pour lesquelles l'idéal positiviste dominant a dû être combattu. La philosophie française n'a fait que flirter avec le positivisme dans les années 30, pour le rejeter très vite.
France never had the problem of
Robert Cohen,
transcending or overcoming.
Université de Boston.
Bachelard, therefore, had an open field.
C'est pourquoi Bachelard a eu le champ libre.
His style in the
Son
early
style
works, so
dans ses premiers travaux est très différent de celui des philosophes anglo-américains. L'épistémologie aux États-Unis n'est pas homogène.
Trends are very much derived from
mais dérive essentiellement de la logique symbolique
and from this useful phrase a logical
et de ce qu'on appelle la reconstruction logique. Le travail épistémologique consiste à prendre des théories scientifiques
and restating
et à les reformuler, à les reconstruire de façon à clarifier les prémices, les hypothèses, les faits. La question de la réduction n'apparaît pas comme centrale chez Bachelard. Il peut reconnaître des qualités dans le monde sans renoncer pour autant à l'esprit scientifique.
Hence, when Canguilhem wrote his,
de même, lorsque Canguilhem a écrit sa belle thèse sur le normal et le pathologique,
the elaborate problem of understanding the meaning of what is normal and what is pathological. This is a typical Bachelardian
il a abordé un problème typiquement bachelardien
qui est
très difficile à formuler dans l'épistémologie anglo-américaine.
I can even add another dimension to that.
On peut ajouter aussi
in American philosophy of science, we found
que la philosophie des sciences aux États-Unis
we really found it to be very difficult to bring history of science
et la plus grande difficulté à réunir l'histoire des sciences et la philosophie des sciences.
Les deux disciplines, ont
toujours été séparées, même à l'université. Mais cette séparation avait des raisons théoriques. Donc pour nous, réunir la philosophie et l'histoire des idées semblait révolutionnaire.
Thomas Kuhn comes to mind recently. It even had a name here in America. On the one hand, we saw that
la philosophie des sciences est analytique
and deals with the syntax
et s'occupe de la syntaxe et même de la sémantique des termes théoriques. Mais qu'en est-il de l'utilisation de ces termes théoriques, ce que l'on appelle ici pragmatique? Cela a toujours été remis à plus tard. Avec Bachelard, cette pratique était là dès le départ. Le contexte humain et l'usage humain des concepts scientifiques exigeaient qu'on considère à la fois l'aspect subjectif et social, ce qu'on appelle intersubjectif, et l'aspect objectif, le formel et le concret ensemble.
Why this was so for Bachelard is another question. How he happened to be so deeply able to do that.
Bachelard était capable de faire cela, nous pas.
Therefore, the rediscovery of Bachelard.
On peut dire que la redécouverte de Bachelard aurait pu apporter beaucoup à l'épistémologie américaine, mais elle n'a pas eu lieu.
On ne peut pas sauter de l'idée que certains, au moins, de ces philosophes ou historiens des sciences dans les pays anglo-saxons s'éprouvent eux-mêmes avec la conscience un peu triste qu'ils ne sont pas de vrais scientifiques. Alors que Bachelard avait, à l'égard de la science dont il parlait, un rapport suffisamment maîtrisé et désinvolte pour qu'on ne sente jamais, à aucun moment, cette espèce de mauvaise conscience de n'être pas véritablement un scientifique. Par là, il était tout aussi au courant que quiconque de ce que pouvait avoir de dangereux l'usage de certaines formes du savoir scientifique, les effets aussi désastreux que pouvaient avoir certains dogmatismes. Nul n'était plus alerté que lui là-dessus, mais que l'usage de la raison soit en lui-même, pour qui en faisait usage, source d'infini bonheur, là c'était quelque chose qui était pour lui très sensible.
Est-ce que Bachelard vous a semblé être un témoin pertinent de la science de son époque ?
Non mais écoutez, il y a une chose qui est certaine.
Oui.
C'est que premièrement, jamais les scientifiques n'ont besoin pour faire leur science, ni des logiciens, ni des épistémologues, ni des historiens des sciences. Bon.
Oui, ça, c'est
et ça vaut
question.
Pour Bachelard, mais ça vaut pour tous les autres aussi.
Oui, mais alors
tous les autres.
Oui.
Bon. Je crois cependant, et que là, Bachelard est peut-être un cas assez unique, que d'une part, il a, dans la manière même dont il a fait l'histoire des sciences, suscité chez les scientifiques même, pour les raisons dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire en donnant du travail de la raison cette image chaude, vivante, liée à la créativité, à l'invention, à la liberté, etc., il a donné aux savants l'envie de faire l'histoire de leur propre science et de la faire d'une manière qui ne soit pas ennuyeuse et qui ne soit pas l'histoire monotone d'une vérité cheminant lentement, etc. Bon, il a donné aux scientifiques la possibilité de faire l'histoire de leur science comme l'histoire d'une perpétuelle inventivité. Et ça a été quelque chose de très important. Je crois aussi qu'il a, d'une façon plus générale, donné de la pratique scientifique une image suffisamment vive pour avoir évité, d'une part, l'idée un peu assez ennuyeuse d'un nécessaire progrès continu, etc., qui allait se faire, et puis d'un autre côté, éviter l'image de la science avec ses effets désastreux sur l'environnement humain, la liberté humaine, etc. Bon. Il a, je crois, véritablement placé la science là où il fallait la placer, c'est-à-dire au cœur de ce qu'il y a de plus inventif dans la rationalité humaine. Bon, moi je crois qu'avoir donné de la science cette image, avoir donné de cette idée aux savants de l'histoire de leur propre science, c'est deux choses qui sont sacrément importantes. Et sans doute la science n'avait pas besoin, si l'on veut, que Bachelard lui rende service. Il n'en reste pas moins qu'il a fait là quelque chose qui a été, je crois, assez important pour la conscience que la science avait d'elle-même et pour la conscience que l'on pouvait avoir de la science. Bon, c'est un beau travail. Mais vous savez, quand vous regardez la manière dont quelqu'un comme François Jacob, généticien tout de même, c'est important, a raconté l'histoire de sa propre science dans la logique du vivant, vous apercevez que c'est extrêmement proche par beaucoup de ses méthodes, beaucoup de ses concepts, par la perception même qu'il a de ce tissu historique. C'est très proche du bachelardisme. Enfin, ça s'inscrit tout à fait dans cette ligne-là. Non, non, ça, le rôle de Bachelard a été très important. Et je vous dis, au plus près, finalement, de ce que les scientifiques peuvent dire et penser à propos de leur propre science et de l'histoire de leur propre science.
J'ai été extrêmement heureux d'enseigner. C'était ma vie, si vous voulez, expansive. Je n'étais pas peut-être un professeur suffisamment organisateur, je ne sais pas, mais je considérais les cours que je pouvais faire comme un exercice spontané. J'étais préparé, si vous voulez, mais je ne pouvais pas me tenir au plan de leçon que j'avais fait. Et alors j'étais toujours en état d'enseignement positif, d'enseignement actif, et je me portais bien. Il m'est arrivé souvent, n'est-ce pas, après mes cours à la Sorbonne, je me sentais toujours rajeuni. Et si je suis si vieux, c'est peut-être parce que je le sens. Voilà.
C'était Le Gai Savoir. Gaston Bachelard, Jean-Claude Bringuier, 1961. Document INA. Avec Michel Foucault et Robert Cohen de l'Université de Boston. Traduction Kay Mortley. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Collaboration technique, Michel Créis. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962, cette semaine. Les grands travaux scientifiques. Suite de figures. Cousins. Buffon, D'Alembert, Lavoisier et l'essor scientifique durant la Révolution 1954, 1948, 1949.
À elle seule, l'avis de Victor Cousin demanderait une longue conférence si l'on devait la relater dans toutes ses péripéties les plus diverses. Quand on la suit pas à pas, on peut s'étonner qu'un homme si attaché aux fonctions sociales ait eu le loisir d'écrire de si nombreux livres et des livres si divers. On peut bien dire que Victor Cousin représente le philosophe dans le siècle. Son choix politique est vite fait. Pendant les 100 jours, il s'engage dans les volontaires royaux. Aussi, dès 1815, il est récompensé par le nouveau régime. Il est nommé suppléant de Royer-Collard à la Sorbonne. Hostile à la Révolution, hostile à l'Empire, il est ainsi, dès le début de sa carrière, le philosophe de la Restauration. Dans sa suppléance à la Sorbonne, il continue l'examen de la philosophie écossaise dont Royer-Collard avait commencé l'étude. Un premier voyage en Allemagne lui permet d'étudier les philosophies de Kant, Schelling et Hegel. Il expose le kantisme, succinctement, dans ses cours, mais au moment du licenciement de l'école en 1822, il fut suspendu de son cours à la Sorbonne comme attaché au parti libéral, royaliste. De 1824 à 1825, au cours d'un nouveau voyage en Allemagne, il est arrêté comme suspect de carbonarisme. Durant une captivité de 6 mois, il étudia de plus près Hegel. Rentré en France, il suit le destin du Parti libéral et à la chute du ministère Villèle, en 1827, il est réintégré dans sa chaire à la Sorbonne. C'est l'époque où Guizot et Villemain y enseignent. Bien qu'il n'ait joué aucun rôle dans la préparation des événements de juillet, le nouveau régime comble Cousin d'honneur. Il est nommé conseiller d'État, professeur titulaire à la Sorbonne, puis bientôt, en 1832, directeur de l'école normale, pair de France. En 1830, il avait remplacé à l'Académie française le grand mathématicien Fourier. Le 1er mars 1840, il entre dans le cabinet libéral de Thiers comme ministre de l'Instruction publique. Il met en œuvre des réformes nombreuses. Le titre de l'ouvrage où il a réuni ses discours en 1844 est « Défense de l'université et de la philosophie ». En 1848, il accepte le nouveau régime, mais bientôt, il quitte la vie politique. Une carrière si multiple fut-elle soutenue vraiment par une philosophie solide et profonde? Il est sûr que si l'on veut définir une philosophie cousinienne, il faut s'adresser aux œuvres de jeunesse. Il tente de montrer que, dans son développement moderne, la philosophie s'est divisée en deux grands rameaux, le sensualisme de l'école de Locke et l'idéalisme de l'école de Kant. Mais citons dans sa simplicité le texte où Victor Cousin prétend fixer sa philosophie personnelle. Je cite donc Cousin. « Après l'idéalisme subjectif de l'école de Kant, l'empirisme et le sensualisme de l'école de Locke, tous deux développés et épuisés dans leur dernier résultat possible, il n'y a plus d'autres résultats possibles, il n'y a plus d'autres combinaisons nouvelles, selon moi, que l'union de ces deux systèmes dans le centre d'un vaste et puissant éclectisme. » Et Cousin continue, l'éclectisme. Et ce nom bien ou mal choisi, et qui depuis quelque temps commence à se répandre et à retenir un peu en France et ailleurs. Ce nom reporte involontairement ma pensée à l'époque où pour la première fois il fut prononcé sans éclat et sans écho dans cette chaire, dans l'obscurité des essais timides de mon premier enseignement. Voilà, à sa naissance, l'idée et la dénomination d'éclectisme qui devait rester attachée à l'école philosophique de Victor Cousin. Le projet est vaste, mais la réalisation est bien pauvre. Et la défense de l'éclectisme est bien vite placée, précisément, dans le règne oratoire. Cousin, s'écrie, notre philosophie, messieurs, n'est point une philosophie mélancolique et fanatique. C'est une philosophie optimiste, dont le seul but est de tout comprendre, et qui par conséquent accepte tout et concilie tout. Elle ne cherche sa force que dans l'étendue. Son unité n'est qu'une harmonie, l'harmonie de tous les contraires. On sent bien que de telles généralités sont inertes et qu'une telle harmonie des contraires n'a rien de commun avec les synthèses dialectiques très travaillées de la philosophie hegelienne. On raconte que lorsque Hegel connut les leçons professées par Cousin, il dit « Monsieur Cousin m'a pris quelques poissons, mais il les a bien noyés dans sa sauce. » Victor Cousin ne méditait pas les systèmes philosophiques dans leur essence particulière. Il survolait l'histoire de la philosophie, et cependant, il restait un simple historien de la philosophie. Dans son ouvrage « Du vrai, du beau, du bien », les problèmes ne sont pas attaqués directement. L'éclectisme amassé des thèses sans parvenir à les concilier. En introduisant, suivant son expression, l'éclectisme dans la conscience elle-même, Cousin s'interdisait la constitution de cette conscience unitaire qui fait la force de la pensée philosophique. Pour rendre justice aux indéniables efforts que Victor Cousin a fait pour la culture philosophique, il faut reconnaître la patience de son érudition, il faut surtout comprendre le grand intérêt qu'il y avait pour la culture philosophique de son époque, à avoir des éditions convenables des œuvres de Descartes, de Platon, de Proclus. Par ces éditions, Victor Cousin a rendu des services à la philosophie.
Gaston Bachelard, 1948.
Dans une précédente causerie, en rappelant les œuvres maîtresses de Newton, j'ai essayé de caractériser un génie isolé, un génie qui travaille seul, un génie qui cache ses découvertes. Je voudrais aujourd'hui présenter des savants d'un tout autre caractère, des génies qui veulent au contraire tout de suite agir sur la pensée de leur temps. Réciproquement, de tels penseurs constituent des périodes scientifiques très caractéristiques. J'ai choisi trois savants français, très différents l'un de l'autre, qui marquent profondément le XVIIIe siècle. Buffon, D'Alembert, Lavoisier, ils nous feront comprendre que le progrès des sciences est un progrès social. Buffon est le type du génie organisateur. Il organise le jardin du roi, qui sera notre muséum, comme il a réorganisé son bien de famille à Montbard. Il édifie dans le jardin du roi des serres et des cages. Il réclame des spécimens dans tous les coins du monde pour enrichir les collections. Il assemble les savants les plus divers pour que le muséum puisse donner un enseignement complet. C'est lui qui appelle à Paris Rouelle, Fourcroy, De Jussieu, de Bonton, Lacépède. L'œuvre de Buffon, dans son magistral développement, est essentiellement organisé. Il écrit avec une régularité surprenante des livres très étendus. L'histoire des quadrupèdes, l'histoire des oiseaux, l'histoire des minéraux. En 1749, il publie une histoire de la Terre qu'il reprend à la fin de sa vie sous le titre « Les époques de la nature ». Il y met en discussion toutes les théories présentées sur la formation de notre globe. On lui a reproché d'avoir observé davantage par les yeux des autres que par les siens propres. De ce fait, son œuvre n'a pas l'importance scientifique qu'on reconnaît maintenant encore à l'œuvre d'un Réaumur, observateur vraiment génial. Mais l'action de Buffon sur son temps fut considérable. La science a besoin d'une atmosphère d'intérêt. Grâce à Buffon, toute la société du XVIIIe siècle fut appelée à l'observation de la nature. Un autre exemple d'un génie multiple profondément engagé dans la vie de son siècle nous sera donné par D'Alembert. Par bien des points, il s'oppose à Buffon. Il est même franchement hostile à Buffon. Mais il a le même besoin que Buffon de propager la culture scientifique dans un vaste cercle. On sait le rôle qu'il joua avec Diderot dans cette grande entreprise de bonne et saine vulgarisation que fut l'encyclopédie. D'Alembert voulut rassembler tout ce que le génie humain avait pu découvrir ou créer dans les sciences, autant dans les sciences que dans les arts. Diderot et D'Alembert voulurent que ce dictionnaire fût lu par les érudits et par les artisans. Quelle était pour D'Alembert la science maîtresse? Comme pour Newton, c'était la mathématique. D'Alembert y fut maître dès ses premiers essais. À 22 ans, il publia un mémoire sur le calcul intégral fondé par Newton et Leibniz. Il fut un des premiers à utiliser, à propos du problème des cordes vibrantes, Dieu problème, les équations nouvelles aux dérivées partielles. Son traité de dynamique a déjà un aspect tout moderne. Ce traité prépare les travaux que Lagrange devait bientôt publier sur la mécanique analytique, mécanique sans figure, tout algébrique, qui reste à la base de la science moderne. Mais peut-être que la troisième figure que nous voulons présenter témoignera davantage encore de l'action du génie sur son siècle. Comme dit Louis Figuier, raconter la vie de Lavoisier, c'est raconter la création de la chimie, ses progrès et son établissement définitif en Europe. La chimie de Lavoisier rompt non seulement avec l'alchimie, mais aussi avec les théories de ses prédécesseurs immédiates. Lavoisier apporte la preuve expérimentale, péremptoire, de la fausseté de la théorie du phlogistique de Stahl. Pour Stahl, la rouille était une substance simple, le fer une substance composée. Lavoisier prouve que le contraire est vrai, et cet exemple suffit, dans sa brièveté, à établir ce qu'est une révolution scientifique. Quand Lavoisier, en 1783, fit avec Laplace la synthèse de l'eau, et quelques mois après, l'analyse de l'eau, on eut la preuve éclatante que l'eau n'était pas un élément. Quand Lavoisier sépara l'oxygène et l'azote, on eut la preuve que l'air n'était pas un élément. Mais un des traits du génie de Lavoisier est ici bien apparent. Il aime à travailler en collaboration avec le grand mathématicien Laplace. Il fit en 1780 un admirable travail sur le problème des chaleurs spécifiques. Et quand il s'agit de donner à la chimie nouvelle une nomenclature systématique, Lavoisier s'associe à trois grands chimistes. Pourquoi Guiton de Morveau et Berthollet se réunissent en 1787 pour établir des règles précises et uniformes pour nommer les corps composés? C'est depuis là qu'on distingue les sels par un jeu de suffixes en ur, en at, les acides par des suffixes en e, en ic. Toute cette nomenclature et présente à notre esprit. Cette langue nouvelle a reçu bien des enrichissements, mais elle a gardé ses principes. Les principes choisis par Lavoisier étaient bons. La langue chimique, malgré sa richesse accrue, est restée claire. Ainsi, avec trois grands savants très différents, nous trouvons la même tendance à l'organisation systématique du savoir. La science progresse donc, comme nous l'annoncions, dans une dialectique de découverte et d'organisation.
Gaston Bachelard, 1949.
Il peut sembler artificiel d'étudier une période de l'histoire des sciences en se référant à une période de l'histoire politique. Mais il est des époques où l'activité humaine est si déterminante qu'elle met sa double marque sur les institutions politiques et dans les connaissances scientifiques. La période de la Révolution française est un bon exemple de cette double activité. Une raison profonde de cette convergence, c'est que la Révolution fut en grande partie préparée par l'encyclopédie, par une philosophie fondée sur une solide confiance dans les progrès humains. En ce temps-là, on ne discutait pas sur la réalité du progrès. On ne disait pas que le progrès était un mythe. On travaillait au progrès de l'humanité avec une bonne conscience, avec une pleine conscience. Un grand savant de l'époque, Jean-Baptiste Biot, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui avait écrit en 1803 un essai sur l'histoire des sciences pendant la Révolution française, s'exprime ainsi sur l'encyclopédie. L'encyclopédie, dit-il, était une barrière qui empêchait pour toujours l'esprit humain de rétrograder. Dans le style d'aujourd'hui, nous dirions que l'encyclopédie était une psychanalyse de la connaissance objective. Mais pour mesurer les progrès, passons en revue les sciences principales et rappelons les grands noms qui illustrèrent la pensée française pendant la période révolutionnaire. En mathématiques, trois grands mathématiciens, Lagrange, Laplace, Legendre, multipliaient les mémoires, multipliaient les découvertes. Il crée des sciences nouvelles, indiquant par conséquent le caractère révolutionnaire de la science. La mécanique analytique de Lagrange achevait l'immense progrès philosophique de la mécanique de Newton et de la dynamique de D'Alembert. D'Alembert ne vit pas la révolution qu'il avait préparée. Il est mort en 1783, au fait de son génie. Lagrange fondait vraiment, par ses travaux, la mécanique rationnelle. Laplace, de son côté, fondait du même coup la mécanique céleste. Il écrivait d'ailleurs le premier traité systématique sur le calcul des probabilités qui, aujourd'hui encore, fait autorité. Laplace avait d'ailleurs travaillé avec Lavoisier à des expériences sur la chaleur, sur la mesure du pouvoir calorifique. Mais le lien entre les mathématiques et la physique fut surtout établi par Jean-Baptiste Fourier, un grand savant dont il faut que nous retracions rapidement la carrière. Fourier était un bourguignon. Il était d'Auxerre. Il avait commencé des études extrêmement simples. Mais par ses études sur la propagation de la chaleur, il fonda vraiment la physique mathématique. La physique mathématique en tant que doctrine séparée. Son travail sur les séries trigonométriques garde encore de nos jours une fécondité inépuisable. Fourier accompagna Bonaparte en Égypte, il fut par la suite préfet d'Empire sous l'Empire, et nous le retrouverons dans ses causeries. Un autre génie, Gaspard Monge, créait dans les mêmes temps la géométrie descriptive. Avec Borda, Monge avait été un élève extrêmement intelligent de l'école militaire de Metz. Il joua un rôle de premier plan dans l'organisation de l'école polytechnique. Il aida puissamment Lazare Carnot, celui qu'on appelle en histoire l'organisateur de la victoire républicaine. Il dirigea le service des poudres. La technique des poudres réformée par Monge permit, comme on l'a dit, de faire de la poudre en 12 heures. Avant Monge, il fallait des jours et des jours. Le salpêtre qu'on recueillait dans les étables n'étant pas absolument au point. Monge écrivit un art de fabriquer les canons. Il fut ministre de la Marine. Carnot lui-même était un mathématicien. On lui doit une métaphysique du calcul infinitésimal. Les Monges et les Carnot prouvent que les mathématiciens peuvent être des réalisateurs. La physique comptait aussi des noms célèbres. Coulomb achevait ses plus brillants mémoires sur l'électricité statique en 1789. Jean-Baptiste Biot, que nous avons cité tout à l'heure, commençait un enseignement qui devait, durant un demi-siècle, former de nombreux savants. Ses travaux sur la lumière, entre autres, font date. Citons encore Malus, dont la découverte principale sur la polarisation de la lumière eut lieu en 1808, à la fin de sa courte vie. L'abbé Ahuy publia ses belles recherches sur la cristallographie. Son traité de minéralogie parut en 1801. Mais c'est peut-être la chimie qui a, dans les sciences de la Révolution, la place la plus marquante. Les chimistes français venaient d'accomplir une transformation radicale de la théorie et de l'expérience chimique. Lavoisier fut le promoteur de cet immense progrès. Sa mort sur l'échafaud en 1794 est une grande tristesse de l'histoire. Guiton de Morvan, son compagnon, continua l'œuvre entreprise. Pourquoi un autre disciple de Lavoisier, pourquoi qui siégea à la Convention, écrivit des traités de chimie qui furent souvent réédités? Avec Chaptal, la chimie appliquée à l'industrie, à l'agriculture, affirma sa maîtrise. Berthollet, qui accompagna lui aussi Bonaparte en Égypte, étudia les problèmes du blanchiment. Le chlore était alors un corps nouveau. Berthollet sut l'employer, sut le fixer, et il produisit la première technique qui devint l'eau de Javel. La discussion scientifique, théorique, de Berthollet et de Proust, un autre chimiste de l'époque, touche aux bases mêmes de la doctrine atomistique. Berthollet ne prépara pas l'atomistique. Il était plutôt contre cette doctrine. En 1795, pour lutter contre le blocus, un chimiste français, Leblanc, mit en œuvre les premières usines de fabrication du carbonate de soude artificiel. Le procédé Leblanc régna plus d'un siècle jusqu'au jour où il fut supplanté par le procédé du Belge Solvay. La Révolution connut aussi de grands médecins. Citons entre autres l'aliéniste Pinel, le spécialiste des maladies du cœur que fut Corvisart. Dans sa courte vie, Bichat, né en 1771 et mort en 1802,
fonda vraiment la science des tissus vivants. Quand le muséum fut réorganisé en 1793, on associa à Lacépède et à De Jussieu Lamarck. Lamarck, jusque-là, n'avait fait que des travaux de botanique. Il commença, une fois installé au muséum, de longues recherches sur les animaux, et ce sont ces recherches qui devaient aboutir en 1809 à sa philosophie zoologique qui est restée une œuvre maîtresse. Dans les mêmes années, Georges Cuvier commençait sa prestigieuse carrière. Ainsi, toutes les sciences étaient en progrès manifeste. La confiance dans les bienfaits de la science, dans la valeur philosophique et réelle de la pensée scientifique était totale. L'État créait des écoles, il réorganisait des enseignements. Les grandes écoles préparaient les nouveaux maîtres de la science, les nouveaux chefs de l'industrie. L'unification des poids et mesures, une mesure qui est peut-être en apparence peu importante, était confiée à des savants. Cette unification régularisait le commerce, mais elle avait aussi un véritable intérêt scientifique. Elle permit à la littérature scientifique française de passer dans toutes les nations. En somme, une fièvre d'organisation et de savoir a marqué l'ère révolutionnaire. La période révolutionnaire fut pour la science une période de féconde activité.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique, rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983, était suivi de Gaston Bachelard bis, archives. Cette semaine, les grands travaux scientifiques, suite de figures, aujourd'hui Cousin, Buffon, D'Alembert, Lavoisier et l'essor scientifique durant la Révolution française, 1954-1948-1949. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evalno, Marc-Hubert Floriot. Thank you.